de la volonté de la BCE de plafonner les rendements obligataires d'État et donc de maintenir des conditions de financement favorables sans céder à la panique. Côté valeur, forte correction sur le titre JC Deco qui perd quasiment 5%. Le français leader mondial de la communication extérieure a dévoilé sa première perte nette depuis sa création en 1964. Elle s'élève à 604 millions d'euros. C'était Céline Pentex, investir pour RFI.
Merci beaucoup Céline Pentex, il est presque 18h10 à Paris, l'heure de votre émission Décryptage présentée par Romain Ozoui. Excellente soirée à vous à l'écoute de la Radio du Monde.
Radio G. www.radio-g.fr.
Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé 10 jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement ? Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse, la quotidienne consacrée aux actualités, découvertes, pépites locales et culturelles. On est jeudi et c'est la fin de semaine pour cette émission qui est une grosse feignasse, l'émission. Ensemble ce soir pendant 40 minutes et sans doute un petit peu plus, on va retrouver des toiles plein les yeux avec Margot. Salut Margot.
Salut Annie, bonsoir à tous.
Un peu de sérieux s'il vous plaît. Tu vas nous dire de quoi tu vas nous parler, c'est un secret.
C'est un secret
de Polichinelle à retrouver en deuxième partie d'émission. Il y aura aussi ce soir une chronique littéraire proposée par Luc, qui est comme toutes les deux semaines dans le bruissement des feuilles. Et enfin, nous aurons un reportage sur le dispositif du service civique, un autre rendez-vous hebdomadaire. Voilà le programme, et j'ai bien sûr un proverbe à partager avec vous que j'ai entendu dans la vie véritable, et qui est « À quelque chose, malheur est bon ». On débute en musique, bien entendu, et c'est avec Yel qui a sorti le titre « Vue d'en face » sur son dernier album qui s'intitule « L'air du Verseau ». Et ce titre vous rappellera très certainement votre réalité de cette année.
Je m'ennuie dans mon...
débute l'oreille curieuse avec notre rendez-vous littéraire, un jeudi sur deux. C'est avec la chronique dans le bruissement des feuilles. Une proposition de Luc. Bonsoir Luc.
Bonsoir Anne-Lie. Eh bien, bienvenue dans le monde merveilleux de l'usine. Aujourd'hui, ma chronique s'intitule « Même un ouvrier peut avoir le blues ». Et je vais parler pour cela d'un livre, un tout petit livre, « Putain d'usine » de Jean-Pierre Levaret. Jean-Pierre Levaret, c'est un militant syndical à la CGT, mais aussi un militant politique engagé à la Fédération anarchiste. Autant dire que l'engagement, il connaît. Dans ce livre, Putain d'usine, il nous parle de son quotidien d'ouvrier dans une usine pétrochimique. Il procède par petites touches qui lui permettent, un peu à la manière impressionniste, de brosser le portrait du monde du travail vu du côté des ouvriers. En d'autres temps, on aurait parlé de prolétariat. Ce n'est pas un tract, c'est pas un brûlot, tout au contraire. C'est une description presque clinique du travail en usine, ce travail qui n'est pas du tout concerné par le télétravail dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui. Son livre, il le découpe en courts chapitres. Cela commence par celui qui est intitulé « Ne travaillez jamais », dans lequel il raconte un accident de travail en juillet 2000. Un homme qui est tombé d'une hauteur de 20 mètres en ayant traversé une verrière. Rien n'y manque, et pas la description du corps démantibulé de l'homme, encore vivant, que l'on a mis nu pour effectuer les premiers soins, ni le regard des cadres consternés. Et pour ne pas nous lâcher, il enchaîne aussitôt avec un autre accident, en février 1989, une explosion d'hydrogène où deux ouvriers de maintenance d'une entreprise extérieure vont mourir. Et là encore, la description détaillée des corps carbonisés. Mais il n'y a pas que la mort dans ce livre, ou alors une autre mort, celle de l'âme. Il parle de la grève, bien sûr, des postes de nuit tellement particuliers, habités par le sentiment d'inutilité. Et puis, ce que l'on éprouve quand il faut se lever à 4 heures du matin, ou encore sur le travail le dimanche, sur les maladies professionnelles non diagnostiquées. Jean-Pierre Levaret décrit beaucoup ses états d'âme, ses émotions personnelles, ses réflexions. Mais c'est aussi un travail clinique de la description du monde du travail. Il n'écrit pas un manifeste syndical ou politique. Il utilise une écriture simple, il n'y a jamais d'effet de style qui pourrait conduire à une poétisation du monde du travail. Et si son livre tient en tout et pour tout en 83 pages, on a le sentiment que tout est dit. Et alors qu'une vision syndicale ou politique doit toujours conduire à la nécessité de formuler une perspective. Sinon, on désespère le prolétariat. Cette perspective, ça peut être la grève générale, la révolution. Son livre, à lui, se termine sur la vision la plus noire qu'il soit, celle où on le sent fatigué du travail, absurde, et où il dit, et je vous lis un extrait, page 80, « Et moi là-dedans, quand vais-je quitter cette usine ? Ma lettre est prête. » Elle est prête depuis longtemps. Une lettre de démission parce que ça ne peut plus durer. Trop de vie perdue. La lettre est écrite, mais je ne l'ai pas encore envoyée. Manque de courage, peur devant l'avenir ou le vide. Je me suis donné une limite, un laps de temps à ne pas dépasser. Sinon, autant attendre la retraite. D'ailleurs, la boîte fermera peut-être avant la fin de ce temps que je me suis donné, sait-on jamais. Une aide pour partir, comme une petite vengeance face à toutes ces heures gâchées, perdues, pour reprendre ma vie en main. Voilà, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. L'aspiration est de plus en plus forte. Reste à faire le pas. Et puis, last and least pour ce livre, l'épilogue. L'accident à Toulouse de l'usine AZF, usine du même groupe que celle dans laquelle travaille Jean-Pierre Levaret. le sentiment que ce qui s'est passé à Toulouse, l'usine de Rouen dans laquelle il travaille, l'a frôlé à plusieurs reprises. Putain d'usine est un livre édifiant. Il permet à tout un chacun de comprendre ce qu'est le travail en usine. Certes, peut-être par procuration, mais ça ne fait jamais de mal. Alors qu'on voudrait nous faire croire que c'est de l'histoire ancienne, oui, en 2021, il y a des gens qui vont travailler à l'usine. Qu'on ait changé la dénomination de leurs emplois avec le terme de collaborateur n'y change rien. Ce n'est que de la vulgaire novlangue. L'angoisse du licenciement, la pénibilité, le travail absurde, ça existe aussi aujourd'hui. Souvent, pour faire référence à la dureté du travail, on parle de Zola. Mais Zola, c'était à la fin du 19e siècle. C'est presque devenu une image d'Épinal. Et ceux qui y recourent veulent laisser croire que c'était le temps d'avant, que ce n'est plus d'actualité. Et pourtant. Mais peut-être que le plus intéressant dans Putain d'usine, c'est de nous montrer que nous ne sommes jamais seuls à avoir ces pensées, qu'en fait, nous constituons une fraternité. L'envie de plaquer un travail parce que trop difficile, mais l'incapacité de le faire parce que le risque du chômage, par exemple, ou bien ce sentiment éprouvé lorsqu'il doit prendre son poste le dimanche en laissant ses amis déjeuner, finalement, cela renvoie d'une certaine manière à la notion de servitude volontaire développée par la Boétie. Le livre s'appelle « Putain d'usine ». Il est de Jean-Pierre Levaret et il est publié aux éditions L'Insomniaque.
Merci beaucoup, Luc. Je ne me souviens plus si tu nous as dit en quelle année il est paru, ce livre.
Il est paru, alors c'est simple,
après
parce
2000.
Que cette semaine, je n'ai pas oublié, il est donc paru en janvier 2002.
Ça donne à réfléchir, tu nous conseilles de démissionner en bloc ?
Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que je pense que qu'il est important qu'on ait une. Ce qui fait la force d'un salarié, d'une certaine manière, c'est sa capacité qu'il a à réfléchir sur son travail. Jean-Pierre Levaret, d'une certaine manière, c'est ce qu'il fait. Alors, c'est très rude comme livre. Enfin, quand on lit, c'est très, très rude. Mais ça nous oblige nous-mêmes à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que notre travail, quel sens on y met, finalement, quel sens on lui donne. Et ça, c'est important parce que c'est malgré tout... Bon, c'est ce que je dis en début de chronique. Hein, c'est un militant de la CGT, c'est un militant de la Fédération anarchiste. C'est pas n'importe qui, quand même. Hein. Mais c'est quand même un livre, faut bien le dire, un livre très très noir. Oui, tout à fait. Mmh. Oui. Mmh.
Et bien sûr, ces questions, elles se posent dans le salariat, en dehors du salariat. Il y a aussi beaucoup de formes de travail, des fois des emplois qui sont pas reconnus comme tels. Enfin, en fait, c'est une question qui se déploie. Alors moi, j'ai pas beaucoup de références littéraires sur cette chronique-là, en tout cas, pas auxquelles je pense tout de suite.
Il y en a quand même quelques-unes.
Tu veux en partager d'autres avec nous ?
Ah ben, ouais, moi je... Alors, il y en a des militantes et politiques. Il y a par exemple le livre de Fajardi, Frédéric Fajardi, qu'on connaît comme auteur de polar noir. Il a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Métal Europe, parole ouvrière ». Et c'est une collecte de paroles qu'il a faite sur le site de Metal Europe à l'époque où on était en train de fermer ce site-là. Et c'est un livre qui est vraiment passionnant. Si on parle de littérature, mais vraiment de littérature, alors là, il faut lire le bouquin de François Bon, qui s'appelle « Daewoo », sur l'usine Daewoo dans l'Est. Et c'est... Alors, François Bon, c'est de l'écriture, mais au niveau supérieur. Et c'est une exploration de la Lorraine par François Bon qui est magnifique. Puis, un autre bouquin, alors, qui est drôle... Celui-là, c'est le bouquin qui s'appelle Bleu de chauffe. C'est un bouquin d'un auteur qui s'appelle Nan Orusso et qui écrit sur le monde du BTP. Et c'est très, 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 très drôle. C'est-à-dire, enfin, ça, c'est. Alors, c'est des bouquins qui sont sortis il y a un petit moment, mais voilà, si je devais donner. Ah, ben si, il y a aussi celui-là. Je suis en train de regarder ma liste, là. J'en donne encore deux. Hein. Il y a le roman de Roger Vaillant. Ça nous renvoie dans les années 50. Il a écrit un bouquin qui s'appelait 325 000 francs. Alors je suis désolé, aujourd'hui on parle en euros, mais le bouquin s'appelle 325 000 francs. Et c'est sur la condition des ouvriers dans le Jura, de quelqu'un qui va bosser le plus possible pour essayer de gagner de l'argent. Et puis en fait, ça va très mal se finir pour lui. Et puis il y a le beau livre, le très très beau livre de Svetlana Alexeyevitch qui s'appelle La Supplication, qui est un livre de reportage, c'est une journaliste, hein, Svetlana Alexeyevitch, qui est un livre de reportage sur les décontaminateurs de Tchernobyl et c'est terrible. C'est,
oui, c'est très
ça, c'est un livre à pleurer, ça. Mmh. Voilà. Ouais. Donc voilà, si je devais donner des conseils, ben voilà, il y a de quoi faire là.
J'en ai un aussi. J'en ai un dans un style, alors qui peut paraître beaucoup plus léger, en tout cas qui est beaucoup plus accessible. C'est dans la collection Sociorama. Je ne sais pas si tu connais cette collection.
Non.
C'est chez Casterman. Et en fait,
oui,
ce sont des petites BD. C'est assez court, mais ce sont des BD qui mettent en image des enquêtes sociologiques, des vraies enquêtes sociologiques, hein, sérieuses, avec des observations. Il y a plusieurs dessinateurs, dessinatrices. On a des choses sur les pick-up artistes, donc les personnes qui développent des techniques, j'ose pas dire pour séduire parce qu'on est au-delà. Et il y en a un qui s'appelle Chantier interdit au public et qui est justement sur les conditions de travail dans le BTP. Le scénario est de Nicolas Jounin, donc c'est lui qui a mené l'enquête initiale. Et le dessin est de Claire Brault, qui a aussi travaillé sur le scénario. Et c'est vraiment une d'entrée, voilà, si on a un petit peu peur de commencer par des textes sans images, un peu abruptes, on apprend beaucoup de choses. Et cette collection, c'est vraiment une porte d'entrée intéressante sur plein de sujets.
Donc, moi, je crois que c'est un champ des livres, hein, le champ soit de la collecte des paroles, qui est une chose, soit de l'enquête sociologique, soit même du roman, tout bonnement. C'est un champ qui est, moi, que je trouve extrêmement passionnant parce que il permet à nous, lecteurs, de réfléchir. Ça nous ouvre des portes, et je crois que c'est ça qui est important dans la littérature. C'est quand la littérature ouvre des portes. Je repense à un autre livre.
Attention, Luc, on a bientôt plus beaucoup de temps. Hein.
C'est le dernier. C'est le livre d'Elisabeth Fiol qui s'appelle La Centrale, qui raconte c'est très court, qui raconte aussi la vie des ouvriers qui sont embauchés pour nettoyer les centrales nucléaires, mais qui sont des ouvriers d'entreprises extérieures. Et c'est terrifiant.
Oui, surtout que ça parle du monde réel.
Oui, même si c'est un roman, ça parle du monde très très réel, celui-là. Hein.
Donc on a des enjeux réels.
Oui.
Je ne suis pas rassurée. et puis bon, on pourrait dire plein de choses. J'entendais sur le nouveau prolétariat, par exemple, tu utilisais ce terme. Quelqu'un qui disait, on a beaucoup de gens dans la logistique, dans le transport, aujourd'hui, des colis, en termes de fatigue physique. Ou le dernier film de Ken Loach, Sorry We Missed You. C'est à voir un homme qui se lance dans la livraison.
Qui vient dans le monde d'après, là. C'est le monde qu'on nous vante, le monde d'après, oui, tout à fait.
Alors, c'est le monde où on demande aux personnes d'avoir une entreprise indépendante, mais en fait, elles devraient être salariées, puisqu'elles dépendent complètement d'une autre plateforme. Bref, on parlera droit fiscal une autre fois dans cette émission. Merci beaucoup. Ou tu voulais ajouter quelque chose?
Non, je te remercie de m'avoir accueilli.
Merci à toi, Luc.
Au revoir.
Vous écoutez toujours l'oreille curieuse. Je pense vraiment qu'une émission droit fiscal serait intéressante un jour ou l'autre, ou droit du travail. Pour l'heure, on continue sur les ondes de Radio G, évidemment. Et on va retrouver un reportage sur le dispositif du service civique.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Maya et Jennifer effectuent une mission de service civique au sein de Pâques la Lune, une association culturelle d'éducation populaire qui réalise des chantiers artistiques favorisant la rencontre et l'échange dans les quartiers populaires de l'agglomération nantaise notamment. Maya et Jennifer nous livrent leur regard sur leur mission, c'est plus, c'est moins, les enjeux d'une telle mission à leurs yeux, et elles évoquent la vie après.
Bonjour, je m'appelle Maya, je suis en service civique à Pâques-la-Lune depuis début septembre jusqu'à début mai.
Bonjour, je m'appelle Jennifer, je suis en service civique à Pâques-la-Lune depuis début juin et jusque début février. On participe aux animations qui ont lieu tous les jours de la semaine dans différents quartiers de Nantes, donc Nantes-Nord et Nanterre.
En ce moment, par exemple, sur le quartier Nantes-Nord, on est en train de faire des fresques pour cacher les travaux qui sont en cours en fait en ce moment ici. Ce qui me plaît le plus du coup dans mes missions, je pense que c'est la rencontre avec les habitants, le partage qu'on peut avoir avec eux. Ouais, passer du temps et rencontrer des gens, je pense que ça c'est vraiment une des choses qui me plaît le plus.
Ce qui me plaît le plus, c'est en fait la variété de choses qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'on prépare à la fois les animations et en même temps on peut voir ce que ça donne directement. Donc voir ce que notre travail donne et donc voir si ça plaît. Et puis on peut modifier du coup pour le cycle suivant ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Je pense que ce qui me plaît le moins dans dans ma mission... ça va être plus aussi de l'ordre de certains, parfois du relationnel aussi. Des fois, en fait, il y a des choses qui sont très difficiles à voir et on peut pas forcément agir directement. Bah, parfois, il y a de la violence, il y a des situations en fait auxquelles on n'a pas du tout l'habitude et on aimerait pouvoir interagir, mais c'est pas de notre ressort. Et en fait, moi, je me suis déjà retrouvée démunie face à certaines situations, en me disant je peux rien faire et je suis obligée d'observer, de constater, et c'est compliqué en fait.
Ce qui me plaît le moins en revanche, c'est des fois dans la préparation que ça va très vite et qu'on a l'impression de pas avoir assez de temps et que du coup on a plein d'idées mais qu'on n'a pas forcément les capacités de les mener à bien. Donc c'est un peu frustrant. Et pareil pour pendant les animations, donc comme Maya disait, de faire face à des situations un peu difficiles. Moi, ce que je mets derrière en termes d'enjeu, c'était de trouver une voie professionnelle en fait qui me correspond. Et je pense que j'ai trouvé vraiment ce que j'aimais faire parce que je travaille tous les jours en aimant beaucoup ce que je fais. ça m'a permis de me recentrer sur ce que j'aimais faire parce que j'étais un petit peu perdue au niveau de ma future carrière. Maintenant, j'ai un projet professionnel d'ouvrir une galerie où j'exposerai des personnes en situation de handicap. Donc d'exposer principalement de l'art-thérapie, mais aussi des artistes qui font de l'art en utilisant ou non leur handicap, en exprimant ou non leur handicap, mais histoire de les mettre en avant.
Moi, l'enjeu en tout cas que j'ai en faisant ce service civique, je sais pas encore ce qu'il est pour le futur, mais en tout cas pour ce j'ai arrêté mes études parce que le système scolaire me convenait pas. Et en fait, j'ai cherché pendant un moment ce qui pourrait me convenir. Et le service civique, en fait, c'est un peu venu comme une solution miracle parce qu'en fait, j'avais besoin de contact en fait avec les gens, de pouvoir participer concrètement à un projet et de me sentir en fait utile dans ce que je faisais. Et là, ça me permet vraiment en fait d'apprendre beaucoup grâce aux autres et du coup de pouvoir peut-être trouver un peu plus en fait ce qui pourrait me plaire après.
Merci. Merci à vous.
Merci.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la FRA, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Écoutiez Mathiel avec le titre Populonia et vous êtes bien sûr dans l'oreille curieuse sur Radio G avec la chronique de Margot d'Étoiles plein les yeux. Bonjour Margot.
Bonjour Annie et bonjour à toutes et tous. Me revoilà à ce micro pour évoquer avec vous un film à partir de quelques extraits.
Alors ce soir, tu nous parles de quoi ?
Eh bien ce soir, je suis d'humeur champagne et petit four, bougies et fêtes, le tout avec modération quand même parce que nous sommes encore sous couvre-feu. En effet, il ne vous aura pas échappé qu'on s'apprête à célébrer un drôle d'anniversaire, celui du début du premier confinement. Le 17 mars 2020. Et moi, quelques jours plus tôt sur cette même antenne, j'évoquais la propagation de ce mal invisible qu'est le virus à travers un film d'Alfred Hitchcock, L'ombre d'un doute. Alors, pour préparer la chronique de ce soir, j'ai pris tous ces ingrédients dans un shaker et le film qui en est sorti est Fenêtre sur cour du même Alfred Hitchcock. Le film date de 1954 et commence par un plan fixe sur une fenêtre découpée en trois vitres. Nous sommes dans un appartement à New York, c'est l'été et il fait déjà chaud malgré l'heure matinale. Les stores se soulèvent un à un pendant le générique, découvrant une vaste cour bordée d'immeubles en briques, typiques de la Big Apple, avec leurs balcons et leurs escaliers de secours vertigineux. Le film peut maintenant commencer. Replan sur un thermomètre qui indique 34 degrés.
Avez-vous dépassé la quarantaine ? Quand vous vous réveillez le matin, vous sentez-vous fatigué ? Éprouvez-vous un sentiment de découragement ?
La caméra fait lentement le tour de la cour, s'attardant sur les fenêtres visibles depuis l'appartement. Là, les larges baies vitrées d'un loft à travers lesquelles on aperçoit un homme bedonnant se raser. C'est lui qui vient de changer la station de sa radio. Plus loin dans la cour, un couple s'est endormi tête beige sur son balcon. Au son du réveil, ils émergent l'un après l'autre. Puis la caméra descend se fixer sur les fenêtres de l'appartement d'une jeune femme athlétique qui s'étire en sous-vêtements rose bonbon. Elle se baisse gracieusement pour remettre son soutien-gorge, nous tournant le dos. Qu'est-ce qu'il fait chaud ! La caméra poursuit tranquillement son tour de cour jusqu'à revenir se poser sur les fenêtres du début. Et nous découvrons enfin le propriétaire de l'appartement, endormi dans un fauteuil devant sa fenêtre. La caméra descend le long de son corps avachi. Un plâtre recouvre l'intégralité de sa jambe gauche, sur lequel est écrit
« CJ, la jambe cassée de L.B. Jefferies ».
La caméra se recule pour donner à voir l'intérieur de l'appartement. Sur une commode, un appareil photo écrabouillé. Accroché au mur juste au-dessus, une photographie en noir et blanc d'un accident spectaculaire sur un circuit automobile. À côté, d'autres clichés de pays lointains, encore un appareil photo, puis une pile de magazines. Sur la couverture de l'exemplaire du dessus, une superbe mannequin blond nous sourit généreusement. Pour tourner Fenêtre sur cour, Alfred Hitchcock a fait construire un décor monumental dans les studios de Paramount. 56 mètres de long, 11 mètres de large et 12 mètres de haut. L'équipe déco a travaillé à partir de photos de cours intérieures du quartier new-yorkais de Greenwich Village à différents moments de la journée. De nombreuses sources d'éclairage ont été disposées dans le décor pour donner l'impression, grâce aux variations de la lumière, du temps qui passe et de la journée qui s'écoule lentement. Le jeu en valait la chandelle, car le film se présente comme un huis clos magistral. Épousant exclusivement la perspective du personnage principal, Jefferies, incarné par l'acteur star James Stewart, l'intégralité du film est tournée depuis les fenêtres de son appartement. Comme le souligne Alfred Hitchcock,
vous avez dans Fenêtre sur cour le point de vue subjectif que seul le cinéma peut donner. Bien entendu, le romancier peut écrire « A-t-il pensé ?» ou « S'est-il dit ?» Mais le cinéma peut vous montrer le point de vue d'un individu, ainsi que ses réactions, son état d'esprit.
Et c'est bien là le pari du film, nous faire épouser le regard de son personnage principal pour nous faire pénétrer dans sa psyché, ses désirs, ses fantasmes, ses angoisses profondes et son ennui. L'exploration commence avec cette époustouflante séquence d'ouverture, réalisée en un quasi-plan séquence de 2 minutes. Le début de la scène présente les nombreux voisins, potentiels protagonistes du film. Puis, comme dans un miroir, nous découvrons l'intérieur de l'appartement de Jeffries. Les indices disposés par le réalisateur nous permettent de reconstituer une partie de son histoire et de semer les premières graines de l'intrigue. Un photoreporter d'un grand magazine, un accident violent, une jolie femme, un fauteuil. Alors, pour tromper l'ennui, Jeffries observe ses voisins depuis sa fenêtre. Un peu comme chacun de nous pendant le confinement. Je vous propose maintenant d'écouter un nouvel extrait de Fenêtre sur cour. Il fait nuit. Comme la séquence d'ouverture, la caméra balaye la cour d'un mouvement circulaire. Dans l'obscurité, les appartements éclairés sont de petits rectangles lumineux qui trouent les murs de briques sombres. Revenant dans l'appartement, la caméra s'arrête en gros plan sur le visage de Jeffries, à nouveau endormi et faiblement éclairé. Une ombre menaçante se dessine soudain et l'envahit progressivement. Enfin, le contre-champ nous montre une jeune femme qui se penche sur lui, apparition quasi divine. Jeffries ouvre les yeux et sourit. Elle approche ses lèvres. Le silence et le ralenti qui accompagnent ce baiser lui confèrent un effet presque irréel. Est-ce un rêve? Un fantasme?
Bonsoir.
Bonsoir.
Comment va votre jambe?
J'en souffre encore un peu.
Et votre cœur?
Pas très actif.
Quelque chose vous tracasse?
Qui êtes-vous?
Je ne vais rien vous cacher. Lisa?
Elle allume une première lampe.
Carole?
Puis une autre.
Frémont?
Et enfin, une dernière.
Seriez-vous cette Lisa Fremont qui ne porte jamais une robe deux fois?
Seulement parce que mon métier m'y oblige. Celle-ci vient d'arriver de Paris par avion. Savez-vous ce qu'elle coûte?
Je ne suis pas très au courant, calculons. Il y a le transport par avion, les droits d'importation, différentes taxes de douane et...
Elle revient en 100 dollars.
En 100 dollars? Dites-toi, elle devrait être cotée au stock exchange.
Il est impossible de ne pas voir que toutes les scènes d'amour chez Hitchcock sont filmées comme des scènes de meurtre, et toutes les scènes de meurtre comme des scènes d'amour.
Cette remarque très célèbre de François Truffaut trouve dans cette séquence une bonne illustration. Dans le dialogue comme dans la mise en scène, les retrouvailles entre Jeffries et celle qui s'avère son amante sont tournées comme un moment de tension, une lutte à fleurs émouchées, un désir de possession par le regard. C'est la merveilleuse Grace Kelly qui interprète Lisa, jeune femme mondaine et mannequin sophistiquée qui fait la couverture des magazines. L'actrice est l'incarnation de la blonde Hitchcockienne par excellence. Personnage d'une beauté glaciale, elle se révèle particulièrement entreprenante dans le film. Le premier plan de l'extrait que nous avons écouté présente ainsi Jeffries comme la proie de Lisa, qui le domine de son ombre. Puis c'est elle qui met fin à sa rêverie, en allumant une à une les lampes dans l'appartement, brisant l'obscurité propice à l'onirisme et au fantasme. La scène repose aussi sur l'opposition entre de courts plans statiques sur Jeffries, cloué dans son fauteuil. Et j'ai perdu ma ligne.
je suis perdue. Le premier plan.
La scène repose ainsi sur l'opposition entre de courts plans statiques sur Jeffries, cloué dans son fauteuil, et de longs plans mobiles sur Lisa, virevoltant dans sa robe luxueuse. L'impuissance du héros n'en est que plus flagrante. Impuissance en référence à son impossibilité à agir à cause de son plâtre, bien sûr, mais aussi assez clairement, impuissance sexuelle de celui qui fuit le mariage pour se réfugier dans l'observation de plus en plus obsessionnelle de ses voisins. Un couple de jeunes mariés, un homme et sa femme qui se disputent, une voisine croqueuse d'hommes, une femme célibataire ou un pianiste au cœur brisé. Il n'est pas anodin de constater que toutes les scènes que Jeffries épie depuis sa fenêtre renvoient au couple, comme autant de tableaux de l'amour, du sexe, du désir ou de la solitude. Écoutons un nouvel extrait de Fenêtre sur cour. Stella, l'infirmière qui s'occupe de Jeffries, le surprend devant sa fenêtre.
Dans l'état de New York, les voyeurs sont punis de 6 mois de prison.
Ah, bonjour Stella.
Il n'y a pas de fenêtre dans les prisons. Vous savez, dans le temps, aux voyeurs, on brûlait les yeux avec une barre chauffée à blanc. De nos jours, s'il fallait brûler les yeux à tous les voyeurs de la Terre, je crois bien qu'on manquerait de barre. Ah là là, il y a presque autant de voyeurs que de femmes et d'hommes. Les gens devraient sortir de chez eux et se regarder eux-mêmes, ça les changerait. Oui, monsieur. Ça, au moins, ça serait de la bonne philosophie.
Oui, The Digest, avril 1939.
Oh, je me réfère à ce gamin.
Oh, inutile de prendre ma température ce matin.
Allez, je veux voir si vous n'avez pas de fièvre. Vous savez, j'aurais dû être une gitane diseuse de bonne aventure au lieu de devenir infirmière. J'ai dîné pour les drames. Je l'ai flairé à 10 kilomètres. Vous avez entendu parler de ce crack à la bourse en 29. Eh bien, j'avais prédit.
Comment avez-vous pu le prévoir, celle-là?
Oh, c'est simple. Je soignais un des directeurs de la General Motors. Il avait une maladie de vessie. C'était nerveux, à mon avis. Alors, je me suis demandé ce qui rendait la General Motors nerveuse à ce point. Oh, la surproduction, naturellement, et la baisse des prix. Quand la General Motors éprouve le besoin d'aller aux toilettes 10 fois par jour, tout le pays n'est pas loin de la déroute.
Vous savez, Stella, en raisonnant bien, une telle maladie n'a aucun rapport avec le marché des valeurs, ni la vente des voitures.
Pourtant, la débâcle s'est produite. Je prévois aussi des drames ici même, dans cet appartement. D'abord, vous vous cassez la jambe. Alors, vous regardez par la fenêtre des choses que vous ne devriez pas voir, d'où le drame. Je vous vois au tribunal en train d'essayer vous-même de présenter votre défense. Vous plaidez, vous dites, monsieur le juge, ce n'était qu'une innocente plaisanterie. J'aime mes voisins comme un père. Et le juge dit, eh bien, félicitations. Vous venez de donner naissance à 3 ans de prison.
Mais, eh bien, en ce moment, un drame serait le bienvenu.
Vous avez une déficience d'hormones?
Comment pouvez-vous le savoir d'après le thermomètre?
Ces beautés en maillot de bain que vous lorgnez n'ont pas fait monter votre température d'un degré depuis un mois.
J'ai d'abord regardé mes voisins pour tuer le temps. Et puis, je n'ai pu m'empêcher de continuer, comme vous l'auriez fait vous-même.
C'est sur ces mots prononcés face caméra par James Stewart que se clôture la bande-annonce de Fenêtre sur cour. Ces propos renvoient le spectateur à son identification au personnage de Jeffries, car au-delà du thriller, le film nous propose une réflexion passionnante sur notre place de spectateur de cinéma. Ce n'est donc pas par hasard que sa bande-annonce souligne le parallèle entre le voyeurisme du personnage principal de photo-reporter et celui du cinéphile qui se délecte de l'observation d'un film sur grand écran. Et tout est fait dans l'œuvre de Hitchcock pour suggérer ce parallèle. Ainsi, les fenêtres éclairées des appartements face à Jeffries s'apparentent par leur forme aux images qui se succèdent sur une pellicule, surtout quand la caméra les balaye par un travelling latéral. Et le regard de Jeffries qui les parcourt renvoie à celui d'un monteur qui assemblerait des morceaux de vie pour composer un film.
Le cinéma, c'est le montage. Ce sont des bouts de films, longs de 3 photogrammes par exemple, que l'on juxtapose les uns aux autres,
disait Hitchcock. Et le suspense du film, car il faut du suspense dans un film de Hitchcock, repose tout entier sur son art prodigieux du montage et le jeu extraordinaire de ses comédiens. Comme le prévoit Stella dans l'extrait que nous avons écouté, à force d'observer ses voisins, Jeffries va tomber sur un os, au sens propre comme au sens figuré. Mais à défaut de filmer un meurtre, comme dans Psychose par exemple, c'est par le montage que le réalisateur insinue progressivement la tension dramatique. En termes de mise en scène, Fenêtre sur cour repose principalement sur des allers-retours entre des plans du visage de James Stewart, qui regarde autour de lui, et d'autres sur le contre-champ, c'est-à-dire sur ce qu'il voit. Ses voisins de cour et ses proches dans son appartement. L'irruption progressive de l'horreur se fait donc par le visage de Stewart et les réactions qu'il compose. Car le contre-champ seul n'est pas terrifiant en soi. Pour vous en convaincre, je vous propose d'écouter un dernier extrait de Fenêtre sur cour. Il fait nuit. Lisa vient de partir après une nouvelle dispute. Jeffries reprend son observation de la cour. La caméra balaye le décor puis s'immobilise. À l'image, le visage de Jeffries se tend. Il tourne légèrement la tête, comme à l'affût d'un indice sur la raison de ce cri. fondu au noir sur ce regard intrigué. À l'ouverture, Jeffrey s'est assoupi dans son fauteuil. Il ouvre les yeux et l'image repart dans la cour sombre. Les stores sont baissés chez ses voisins. Le couple qui se dispute sans cesse. Retour sur Jeffrey dont les yeux cherchent à fendre l'obscurité. Dans la cour, il se met à pleuvoir. Le couple qui dort sur son balcon se réveille en sursaut et se dépêche de rentrer sa couchette à l'abri. Le visage de Jeffreys est amusé. Le sourire de plus en plus large devant cette séquence de pur burlesque. Après avoir rentré son matelas, le couple plonge dans son appartement. Jeffreys sourit de leur infortune. Il baisse les yeux et son sourire se fige. Son visage exprime à présent la circonspection. À l'image, l'homme du couple aux disputes sort de chez lui avec une valise, vêtu d'un imperméable noir et d'un large chapeau. Le regard de Jeffreys le suit attentivement. Il tourne la tête, puis se penche pour ne pas le quitter des yeux alors qu'on devine que l'homme sort de la cour. Dans la rue, il traverse et s'éloigne, quittant le champ de vision de Jeffreys. Celui-ci regarde sa montre, 2h05, fondu au noir pour marquer l'ellipse. À l'ouverture, il est 2h35. Jeffreys lève la tête, parfaitement réveillé, comme s'il attendait quelque chose. À l'image, l'homme rentre chez lui avec sa valise. Le visage de Jeffreys se détend, le spectateur peut respirer pendant quelques secondes. Alors on le comprend, c'est moins les actions de l'homme en imperméable que le regard intrigué de Jeffreys qui crée la tension pour le spectateur. Qui est cet homme qui s'active mystérieusement en pleine nuit? Quel secret cache-t-il? Est-il vraiment une menace ou seulement un danger fantasmé pour tuer l'ennui de Jeffreys ou celui d'un spectateur confiné chez lui? Comme le souligne le maître de suspense et réalisateur du film,
ici à Hollywood, nous pouvons tout faire sur l'écran. Mais nos pouvoirs sont dérisoires en comparaison de ce qui peut se passer dans votre esprit. Par exemple, combien de fois avez-vous désiré assassiner quelqu'un? Je veux dire, en pensée. Fenêtre sur cour est un film réalisé par Alfred Hitchcock. Il est sorti en salle en avril 1955.
Le film est disponible en vidéo à la demande sur plusieurs plateformes, ainsi qu'en DVD et Blu-ray, éditeur Universal.
Tension qui va nous permettre de finir cette émission. Merci beaucoup Margot, je recommande tout également Fenêtre sur cour. On passe un super moment.
Merci.
Et on peut réécouter cette chronique en ligne sur le site de Radio G. Il y a même une rubrique pour des toiles plein les yeux, la chronique cinéma. Et sinon la prochaine aura lieu dans 2 semaines à l'antenne. Si vous avez envie de réécouter le reste de l'émission, elle est aussi en podcast sur le site de Radio G, page L'Oreille Curieuse. On se retrouve lundi à 18h10. On parlera nutrition avec José, musique avec Mehdi. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire et surtout à passer un très bon week-end. En fait, on a déjà 5 minutes de retard. Bonne soirée et à lundi.
Radio G 101.5. FM.